Bonjour André. Pouvez-vous nous rappeler un peu ce qu'on retrouve dans le guide des soins palliatifs et ce qui vous animait lors de la rédaction de la première édition?
La première édition a été faite de façon un peu égoïste, je vous dirais, en disant les pharmaciens cherchaient une façon d'avoir accès à un outil qui soit très, très, très pratique, facile d'accès, qui irait dans la poche de Sarah, puis qui permettrait aux pharmaciens au quotidien de se servir de ce document-là pour pouvoir rapidement répondre à une question qui émanait soit d'un médecin ou d'un professionnel de la santé, alors que le pharmacien était en travail clinique aux unités de soins, près du personnel de l'équipe multidisciplinaire et près du patient.
Puis manifestement, ça a répondu à un besoin, étant donné qu'on est à la 5e édition.
Tout à fait.
Donc, la 4e édition était en 2008. Qu'est-ce qui a motivé la publication d'une 5e édition?
Au fil des différentes éditions, on est devenu de plus en plus rigoureux. On a ciblé de plus en plus large parce qu'on voulait viser tous les symptômes qui gravitent autour d'une maladie, qui gravitent autour du malade. On voulait être de plus en plus performant dans la diffusion d'informations, donc suivre la tendance de l'évolution de la pharmacothérapie, la physiopathologie, des différents syndromes et symptômes qui étaient mis en exergue pour les différentes pathologies et pour lesquelles on n'avait pas nécessairement répondu dans les éditions antérieures, mais toujours en gardant quand même à l'esprit le côté pratico-pratique. Donc, d'édition en édition, on avait toujours un nouveau défi en se disant « il faut rester vraiment d'actualité ».
J'aimerais vous entendre parler des changements que vous avez apportés au chapitre. T'sais, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de changements dans la pharmacothérapie dans les dernières années ou dans la pratique clinique. Comment avez-vous intégré ça au chapitre du nouveau guide?
Moi, comme rédactrice en chef, je suis restée au parfum, en espérant ne rien avoir oublié, au parfum de ce qui arrivait dans la documentation scientifique ou qui nous touchait de très, très près, comme la crise des opioïdes, de naloxone, qui est devenue accessible sans ordonnance. Il y a eu des ordonnances collectives qui ont été développées par l'INES, qui nous touchent, comme le protocole de détresse respiratoire, l'ordonnance sur les nausées et vomissements, celle sur la naloxone. Alors, on s'est permis de réouvrir nos chapitres pour qu'ils soient vraiment au goût du jour. On a rajouté ces informations-là. Si je donne à titre d'exemple le chapitre sur la thromboprophylaxie, les connaissances ont évolué. Si on va toujours s'appuyer sur ce qui existe, thromboprophylaxie et cancer. Quand on arrive à la phase palliative terminale, on n'aura pratiquement pas de documentation scientifique, mais on a quand même ces patients-là qui ont toujours été sous thromboprophylaxie primaire ou secondaire et qui arrivent en phase avancée de la maladie. Nous avons les NACO qui sont arrivés sur le marché, les ACO maintenant qu'on appelle, qui sont arrivés sur le marché. Il n'y a pas de documentation scientifique, mais on a quand même des patients en soins palliatifs, on a quand même nos patients qui reçoivent cette médication-là, qui se retrouvent en soins palliatifs, qui doivent subir différentes interventions, que ce soit pour une biopsie, une bronchoscopie, une chirurgie. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête ces médicaments-là, on redémarre. Est-ce qu'on doit faire un recouvrement avec une héparine ordinaire et tout ça? Alors, on s'est servi de ces informations-là pour dire, bon, on va essayer de bonifier notre chapitre sur la thromboprophylaxie. Pour la constipation, on a fait la même chose. Il y a vraiment plusieurs agents qui sont arrivés sur le marché. Il faut comprendre que ce n'est pas des études en soins palliatifs. Pour certains agents, effectivement, surtout avec les antagonistes, périphériques des opioïdes, qu'on appelle les PAMORA, finalement, on a, avec le méthylnaltrexone, certaines études avec les patients douloureux ou les patients de cancer. Autrement que ça, on a certains agents qui sont nouveaux pour lesquels les études n'ont pas été faites avec un regroupement de soins palliatifs, mais un patient qui a une constipation en soins palliatifs, ce n'est pas un patient qui a une constipation ultimement que secondaire à la prise d'opioïdes. C'est un patient qui reçoit plusieurs médicaments, qui peut avoir une constipation secondaire parce qu'il y a une faiblesse de son plancher pelvien, parce qu'il n'est plus capable de forcer, parce qu'il y a une autre pathologie intercurrente, finalement, qui cause la constipation. Donc, c'est un patient qui doit recevoir des soins pharmaceutiques au même titre qu'un autre patient qui n'est pas en soins palliatifs, qui est constipé.
La beauté du guide, c'est qu'on le retrouve pour les soins palliatifs, mais on peut aussi l'appliquer à certains domaines de notre pratique clinique chez un patient.
Tout à fait. Chacun des chapitres a été vraiment revu pour dire ce que moi, j'aimerais avoir dans la vie de tous les jours. Là, quand je m'en vais à l'unité de soins puis que j'interagis avec l'équipe de soins, quelle qu'elle soit, et qu'on m'interpelle comme pharmacienne parce qu'on a besoin de trouver une idée originale ou que le médecin est plus certain de sa dose ou qu'il arrive dans un champ de compétences où il est moins à l'aise avec la médication qu'il devra prescrire, puis que moi non plus, je n'ai pas souvent rencontré ce problème-là, mais je dis, bien, ne t'inquiète pas, pas de souci. Je me rappelle que dans la cinquième édition, on a fait une mise à jour dans ce chapitre-là et je pense que ma réponse est dans ce chapitre-là.
André Néron, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.